Bonsoir, nous poursuivons notre série d'émissions sur la province du Tanganyika. Aujourd'hui, nous abordons la question sur la situation socio-économique de cette province. Le Tanganyika, comme vous le savez, est une province qui regorge d'énormes potentialités, entre autres agropastorales, minières et touristiques. Le lac Tanganyika est compté parmi les lacs les plus poissonneux du monde. Et paradoxalement à cela, cette province connaît une situation socio-économique quand même difficile, presque pas d'entreprise par la SNCC dont l'outil est vieillissant et aussi pas d'infrastructure routière. Comment expliquer ce paradoxe et quels sont les défis pour relever l'économie de la province? Nous en parlons ce soir avec Jean-Pierre Kizanza, il est directeur des cabinets adjoints du gouverneur en charge des questions politiques et sociales. Monsieur Jean-Pierre Kizanza, bonsoir.
Bonsoir, je salue aussi les auditeurs de la radio Capitale.
César Kulumbwa, chef des services de la FEC Tanganyika. Monsieur Kulumbwa, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et Madame Brigitte Kiapinga Saouda, experte en développement. Madame Kiapinga, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous, chères Calémiennes et Calémiens, qui êtes venus très nombreux pour poser vos questions et préoccupations à nos invités ici présents, mais pourquoi pas apporter aussi votre contribution au thème de ce soir. On a envie de sentir les Calémiens dans la salle. Si vous êtes dans la salle, applaudissez pour vous-même. À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Monsieur Jean-Pierre Kizanza, je l'ai dit dans mon introduction, vous êtes directeur du cabinet adjoint du gouverneur en charge des questions politiques et sociales. Nous abordons la question sur l'économie et le social de la province du Tanganyika. Le Tanganyika qui est une province qui regorge d'énormes potentialités, notamment agro-pastorales, minières et touristiques. Mais paradoxalement à cela, cette province connaît une situation socio-économique difficile. Comment on peut expliquer ce paradoxe?
Merci de la question posée. Avant toute chose, je voudrais vous dire qu'il y a un problème qui se pose pour le développement de notre province. Ici, il y a lieu de vous présenter les 5 pesanteurs, n'est-ce pas, auxquels la sécurité. Là, je vais insister sur la sécurité de la province, parce que sans sécurité, il n'y a pas de développement. Alors, je disais qu'il y a 5 pesanteurs, n'est-ce pas, auxquels la sécurité a toujours continué, même aujourd'hui, à faire face. Donc, ce sont les pesanteurs, n'est-ce pas, et qui constituent le frein sérieux au développement. Et hier, on a parlé des conflits intercommunautaires qui a opposé, n'est-ce pas, les Toa aux Bantous. C'est une pesanteur à ne pas négliger. Mais aujourd'hui, on est en train, n'est-ce pas, de donner un ouf de soulagement parce que le gouvernement et même les partenaires sont en train de travailler à pied d'œuvre et ils sont suffisamment avancés. Et là, absolument, il y a de l'espoir pour le développement de la province. Et il y a eu aussi le phénomène des coupeurs de route. Aujourd'hui, il y a des cas récurrents des coupeurs de route sur une partie des Kalemi, une partie des Nyunzu et une partie des Kongolo, territoire des Kongolo. Donc là aussi, c'est un défi. Et j'espère que aujourd'hui, on est en train de travailler, on est en train de traquer les inciviques. C'est une bonne nouvelle pour nous. Et il y a aussi une autre pesanteur, les déplacés, les gens qui ont fui les atrocités, n'est-ce pas, des conflits bantous, toi. Il y a eu à ce temps-là plus de 600 000 personnes déplacées internes. Là encore, c'est un problème pour le développement parce que 600 000 personnes au ménage, et c'est tout un pays, c'est toute une province. C'est tout un territoire, donc le développement est déjà mis en cause. Et je vous dirais aussi qu'il y a eu piraterie parce que nous avons le lac qui est aussi le pourvoyeur, n'est-ce pas, des moyens de subsistance à la population. Et nous avons connu des pirateries sur le lac Aujourd'hui, c'est un problème qui est presque terminé, mais vous savez, l'insécurité, on ne peut pas la balayer à 100%. Il y a aussi le banditisme urbain dans la ville de Kalemie. Tout ça, ce sont les défis, n'est-ce pas, auxquels fait face le gouvernement, sans oublier les partenaires. Je voudrais souligner un aspect très important sur la réponse humanitaire. Et là, c'est très important pour nous parce qu'avec les 11 ou les 8 aujourd'hui, les 8 sites qui gardent encore les déplacés, c'est un problème, c'est un casse-tête pour le gouvernement et même pour les humanitaires.
Alors, Monsieur Kizanza, les 5 pesanteurs que vous venez d'énumérer, d'évoquer tout à l'heure, prennent le développement de la province, comme vous l'avez dit. Est-ce que ça impacte aussi l'économie de la province?
Absolument, absolument. Il n'y a pas d'économie sans sécurité. Et c'est vrai, ça a bloqué, parce qu'à un certain moment, Kalemie commençait à sombrer. Mais avec l'apport du gouvernement provincial, aussi national, avec l'apport de la MONUSCO, les humanitaires, on est en train de résoudre les problèmes.
Et si on vous posait la question de savoir comment se porte l'économie de la province du Tanganyika aujourd'hui?
L'économie est en train de se relever. L'économie tente de se relever. Et je voudrais vous dire une chose. Par exemple, pour les importations, et de moins en moins, n'est-ce pas, on commence à importer les denrées de première nécessité, comme le manioc, parce que la fois passée, tout était importé. C'est pour dire qu'il y a quand même un pas de plus qui est en train d'être fait, qui est en train d'être fait. Et vous remarquerez, au niveau des infrastructures routières, il y a les routes d'intérêt national, il y a les routes d'intérêt provincial, il y a même des routes de dessertes agricoles qui sont prioritaires, qu'on est en train de réhabiliter, les ouvrages d'art, comme le pont, les dalots. Et là, on est en train de booster, n'est-ce pas, le développement de la province.
L'économie est en train de se relever, selon vous. Mais cependant, les commerçants de Tanganyika se plaignent de la multiplicité des taxes, ce qui empêche la création d'entreprises et même la création d'emplois dans la province.
Oui, merci de la question. C'est vrai, nous sortons, n'est-ce pas, de la période des post-conflits. Et il y a des choses qu'il faut relever. Je pense, au niveau des commerçants, il y a l'autorité qui a l'oreille attentive, qui est en train, n'est-ce pas, de chercher comment résoudre les problèmes. Et vous savez, à un certain moment, il y a des gens qui se permettent tout, certains services, n'est-ce pas, qui se permettent tout. Mais chaque fois que le commerçant pose leurs problèmes, ils sont reçus, ils sont entendus, et il y a des solutions, il y a des pistes de solutions qu'on leur donne pour pouvoir, n'est-ce pas, résoudre leurs problèmes. Donc ça, c'est un problème qu'on est en train de résoudre petit à petit.
Mais qui n'a pas encore trouvé de solution. On est en train de...
Il y a des problèmes qui sont en train de trouver des solutions. Il y en a, n'est-ce pas, qui sont en cours pour qu'il y ait des solutions. Il y a la province qui doit avoir aussi des taxes pour faire face aux défis, parce qu'on doit payer, on doit fonctionner, on doit se développer. Mais de l'autre côté, il y a les commerçants qui sont en train de faciliter, n'est-ce pas, la tâche au gouvernement pour importer la marchandise et consorts. Je crois à ce niveau-là, il y a des solutions qui sont en train d'être données.
La province du Tanganyika, aujourd'hui, compte combien d'entreprises, à part la SNCC, bien sûr, dont l'outil est vieillissant, d'ailleurs?
Là, c'est un problème, c'est un problème chez nous, Et vous savez, parler en termes d'entreprise, c'est un problème. Aujourd'hui, il y a les Chinois avec la cimenterie de Kabimba. Voilà pour nous, n'est-ce pas? Et lorsqu'on aura à remettre tout sur les rails, donc à construire l'usine, je pense que ça sera une entreprise qui va booster beaucoup de choses, qui va aider l'économie de la province de se relever. Franchement, on n'a pas tellement des industries. Il y a des initiatives privées, mais qui n'apportent rien à la province.
Parlons du social. Lorsque l'économie ne marche pas, ça a un impact sur le social de la population. Comment se porte le social de la population aujourd'hui dans le Tanganyika?
La population, c'est vrai, la population, elle est en train, n'est-ce pas, aussi d'évacuer à ses occupations.
Quelles occupations? Il n'y a pas d'entreprise? Comment les jeunes sont
occupés? Il n'y a pas d'entreprise. Vous savez, comme je venais de dire, c'est la province, n'est-ce pas, est dans une période de post-conflit. en principe, le tout ne doit pas se faire, parce qu'il y a les investisseurs qui ne doivent pas venir comme ça. Il faudrait qu'il y ait des garanties, n'est-ce pas, d'ordre sécuritaire pour qu'ils viennent. Là, c'est très important. Mais dans l'entretemps, il y a l'agriculture, avec les routes qui sont ouvertes. Parce que la fois passée, et on ne savait pas faire 2 kilomètres. Partir des calémies, mais aujourd'hui les gens sont en train, n'est-ce pas,
de circuler. La principale activité, c'est l'agriculture.
Pardon?
La principale activité aujourd'hui dans le Tanganyika, c'est l'agriculture.
C'est le secteur porteur, l'agriculture, pour le moment. Mais c'est vrai, il y a un problème, parce que cette agriculture est totalement manuelle, presque à 90%, 95% manuelle. Mais il faudrait qu'on arrive à motoriser cette culture. On y travaille, il y a des investisseurs qu'on est en train d'inviter. Et là, je vous dis qu'il y a une pesanteur qu'il faut, n'est-ce pas, balayer pour, n'est-ce pas, faire confiance aux investisseurs. Et on est en train, et le gouvernement est en train de frapper aux différentes portes. J'espère que un jour ça ira, parce que un voyage de 1000 kilomètres commence par un pas, madame.
César Koulomboa, vous êtes chef de service de la FEC Tanganyika. Comment se porte l'économie, selon vous, de la province?
Merci beaucoup pour la question. Concernant l'économie de notre province du Tanganyika, il y a un adage qui dit « trop d'impôts tue l'impôt ». C'est-à-dire, au Tanganyika, nous voyons des scénarios concernant l'économie ou concernant l'impôt ou les taxes qui sont perçues, qui sont payées ici à Kalemie. Et l'économie, je dirais que l'économie de notre province n'est pas stable.
Le gouvernement ne vous facilite pas la tâche, vous commerçants, à cause de la multiplicité des taxes?
Je dirais pas du tout, parce qu'il y a un sérieux problème. Au niveau du port, prenons par exemple, nous avons un ordre opérationnel au niveau du port. Mais selon la loi, nous devons avoir 4 services au port. Mais au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a toute une chaîne de services au niveau du port. Or, ce n'est pas prévu par la loi, vous voyez. Et tout ça, c'est une charge pour l'opérateur économique qui vient avec ses marchandises. Vous voyez, une fois il se trouve devant 10 services tout d'un coup, il ne sait pas où commencer. Vous voyez,
et ça vous décourage même.
Ça nous décourage, oui.
Vous en avez parlé avec l'autorité provinciale. On a suivi le directeur du cabinet adjoint du gouverneur qui vient de dire que chaque fois que vous rencontrez des difficultés, le gouvernement provincial est toujours à votre écoute. On essaie de trouver des solutions pour vous.
Oui, ces problèmes ont commencé depuis longtemps concernant l'ordre opérationnel au port. Nous avons commencé avec l'ex-président Joseph Kabila, nous avons soulevé ce problème concernant l'ordre opérationnel au niveau du port. On n'a pas trouvé solution par rapport à ça. Ces services demeurent toujours être au port.
Un facteur qui ne favorise pas, par exemple, la création d'entreprises au niveau de la province, comme l'a dit le Dirkaba, c'est l'insécurité notamment. Mais est-ce que vous pensez que la surtaxation est aussi une barrière qui empêche la création d'entreprises?
Oui, nous avons un exemple palpable. Il y avait une entreprise qui était venue s'installer ici. Cette entreprise a fermé ses portes pour aller s'installer ailleurs, compte tenu des trop de taxes. C'est-à-dire, il y avait trop de taxes taxées à cette entreprise. Alors l'entreprise a jugé bon de fermer et d'aller s'installer ailleurs. Vous voyez, c'est un peu ça le problème que nous, opérateurs économiques, nous racontons, surtout pour la création des entreprises ici au Tanganyika.
Brigitte Kiapinga Saouda, vous êtes experte en développement. Le Tanganyika, une province qui regorge d'énormes potentialités, notamment agropastorales, minières et touristiques. Malheureusement, on constate un frein quant au développement de la province. Comment on peut expliquer ce paradoxe?
Merci beaucoup, madame, pour la question. D'abord, je vais m'apesantir sur la question avec l'œil du paysan. Parce que moi, je me représente là comme en tant que quelqu'un qui travaille beaucoup plus avec le paysan. Et donc, du point de vue du paysan, moi, je dirais que c'est vrai, le Tanganyika a du problème. C'est vrai que le Tanganyika est en train de décoller, parce que moi, je ne dirais pas que le Tanganyika tarde à décoller. Pourquoi? Je suis dans le Tanganyika depuis presque 6 ans, depuis 2016. Si je compare le Tanganyika d'hier et le Tanganyika d'aujourd'hui, excusez-moi, je dirais comme personne de la rue, il n'y a pas match. Il n'y a pas match, pourquoi? Parce que hier, le Tanganyika importait quasiment tout, en commençant même par le piment. Mais aujourd'hui, cette tendance est en train de changer. ça évolue. Hier, dans le Tanganyika, je parlais spécifiquement de la ville de Kalemie. Il était pratiquement difficile de croiser plus de 20 véhicules privés. Je crois que la majorité de véhicules qui roulaient dans la ville de Kalemie, c'était des véhicules de service. Mais aujourd'hui, on ne sait pas en compter. Hier, dans le Tanganyika, il était pratiquement impossible de trouver des denrées, des produits manufacturés. Mais je crois qu'aujourd'hui, la situation est en train de s'améliorer. Et donc, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que le Tanganyika n'évolue pas, mais je dirais que le Tanganyika est en train d'évoluer à son rythme. À son rythme parce que, comme vous le savez, on ne sait pas comparer l'incomparable. Je crois que monsieur le directeur du cabinet du gouverneur venait de dire que nous sommes dans une ville ou dans une province post-conflit. Et en tant que tel, il y a beaucoup d'éléments qu'on doit prendre en compte. Deuxième chose, le Tanganyika est une toute jeune province. À peine 6 ans d'existence. Et donc, avec cela, c'est impossible, c'est pratiquement difficile que ça peine à décoller parce que hier, le Tanganyika qui était, je pense, bien district, aujourd'hui est devenu province. Et en tant que tel, il fallait commencer d'abord par installer les institutions et avec les institutions, commencer à penser à organiser l'économie de la province. Et à mon humble avis, je pense que le Tanganyika est en train d'évoluer à son rythme. Nous devons être honnêtes pour reconnaître qu'il y a quand même des avancées pour ce qui concerne la province du Tanganyika.
Alors, une autre opinion dirait, madame, qu'il y a 10 ans, qu'il y a des choses qu'on pouvait trouver facilement ici dans la province du Tanganyika et qu'on trouve difficilement aujourd'hui. C'est un avis contraire à celui que vous venez de donner. On va prendre le port de Kalemie, par exemple, qui est l'un des plus importants dans la partie est de la RDC. La vie économique de la ville de Kalemie et même de la province du Tanganyika dépend de ce port. Aujourd'hui, malgré son importance, le port de Kalemie est en état, il faut le dire, de délabrement et sa capacité d'accueil est faible.
Oui, absolument, absolument. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le port de Kalemie, c'est le poumon même de l'économie de la province. Et ce port a été construit par les colons belges. Il y a plusieurs années de cela. Et il n'y a pas eu d'effort de l'amélioration des conditions de ce port. Et malheureusement, ça a de l'implication sur le plan économique et sur le plan social, bien sûr, parce qu'il n'y a pas du social sans l'amélioration de l'économie. Et donc, j'étais en train de dire, parce que comme j'ai eu à le dire, que moi je suis en train de comparer les Tanganyika d'il y a 6 ans et les Tanganyika d'aujourd'hui. Même quand il s'agit de ports, je pense qu'il y a 3 ans, c'était vraiment difficile de trouver autant de bateaux que ce qu'on trouve aujourd'hui. Bon, je l'ai dit en tant que quelqu'un qui est venu peut-être en retard dans la province, mais je le vois avec beaucoup plus l'œil du paysan que je suis, l'œil de la population que je suis aussi. Et donc, je me dis qu'il y a eu quand même des avancées. Mais cela, malgré tout, ne peut pas nous empêcher à nous dire qu'il y a certaines choses qui doivent être améliorées. Vous venez d'évoquer le problème du port. Ça, c'est vrai. Ça demande énormément d'efforts. Parce que ce port, quand vous avez eu à le dire, je crois, si ce n'est pas le deuxième, ça peut être le troisième au niveau de l'importance au niveau de la RDC. Ce port dessert pratiquement 3 pays. 4 pays, si j'enlève la RDC, ça fait 3 pays. Nous avons la Tanzanie, nous avons le Burundi, nous avons aussi la Zambie. Et à l'époque de l'État belge, quand les Belges avaient construit ces ports, c'était aussi pour désengorger ces 3 pays. Parce que comme vous le savez, le Tanganyika, c'est la province où il y a, au niveau de l'Afrique centrale, qui produit beaucoup plus de charbon. Et ces ports avaient été construits spécialement pour l'évacuation du charbon, pour pouvoir aider les autres pays à pouvoir développer leur industrie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons trouvé? Avec le changement climatique, il y a la montée des eaux, il y a la rivière Lukuga, qui est l'unique exutoire du lac Tanganyika, qui n'est pas curé non plus. Et donc, aujourd'hui, on a des problèmes d'accostage de bateaux, surtout pendant la période des saisons sèches et pendant certaines périodes des inondations. Par exemple, pour le mois d'avril, tous les ports, il est inondé. Ce qui, absolument, ça demande énormément d'efforts pour qu'on puisse désengorger ces ports. Et en désengorgeant ces ports, on va améliorer les conditions économiques, non seulement de la province du Tanganyika, mais de tous ses voisins. Donc, ces ports, il est vraiment capital pour faire avancer l'économie de la province.
Alors, vous parlez comme une paysanne, vous l'avez dit ici. J'ai discuté avec plusieurs jeunes, depuis que je suis arrivée ici à Kalemie. Les jeunes se plaignent du chômage dans la province. On ne facilite pas la tâche à la jeunesse de Kalemie.
Je pense que ce problème des jeunes...
Pas de financement, par exemple, pour les aider à créer des entreprises. Ils ont des idées, mais il n'y a pas d'accompagnement.
Vous savez, moi je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord que les jeunes puissent se plaindre par rapport au chômage. Ce que je dirais, c'est que d'abord, c'est une situation globale. C'est une situation générale au pays. Donc en RDC, 80%, si pas 70% des jeunes, ils connaissent le problème du chômage. Mais seulement, je me dis, quand on dit qu'on ne facilite pas l'accès au financement, c'est relatif. Parce que je me dis que la première richesse de ce jeune, c'est d'abord leur âge. Ça, c'est la première richesse qu'ils ont. La deuxième, c'est le cerveau qu'ils ont. Parce qu'ils sont jeunes, ils sont intellectuels, ils sont combatifs. Et ça, je le reconnais. Et ils sont à mesure de pouvoir créer des entreprises. Quand je parle de la création des entreprises, pour moi, je ne regarde pas que l'argent. Parce qu'une entreprise naît d'abord par les idées. Je crois que beaucoup de jeunes connaissent Mark Zuckerberg. Je ne crois pas qu'il a bénéficié d'un fonds ou de l'argent pour pouvoir lancer son activité, mais il a commencé d'abord par la créativité pour avoir l'idée de lancer son entreprise. Bien sûr, il y a la facilité. C'est comme ça que notre collègue co-débatteur de FEC venait de dire, avec tout ce qu'il y a comme multiplicité de taxes, ça aussi, ça fait à ce que le jeune ne puisse pas se lancer dans certaines activités parce qu'ils ont peur. À partir du moment où ils peuvent commencer une activité, il y a tous les services étatiques qui ont des yeux braqués et ça décourage. Et donc, moi, je dirais que j'encourage vraiment le jeune à pouvoir se lancer. Nous avons les activités agricoles. Rares sont de jeunes qui se lancent dans l'activité agricole. Personnellement, je travaille dans le secteur agricole.
Ils veulent tous être bureaucrates.
Malheureusement, le secteur agricole, il y a de l'argent. Dans le cadre du projet que nous sommes en train de piloter.
C'est quel projet, madame?
C'est le projet PICAGEL, le projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs, qui est un projet du gouvernement congolais avec l'appui de la Banque mondiale. Il y a de l'argent, il y a la formation pour le jeune, il y a la possibilité à ce que le jeune puisse... Bien sûr que je ne dirais pas que ça peut prendre 10 000, 20 000 jeunes, mais le rare qui peuvent aller dans le secteur agricole, ils peuvent trouver un financement allant de 10 000 dollars à 50 000 dollars. Donc il y a quand même quelques petites opportunités que les jeunes pourront saisir. Il y a aussi certains projets avec la Banque mondiale, avec la Banque de développement africain, les projets tels que le PEJAB, qui est exclusivement pour le jeune et qui encourage le jeune dans l'agriculture. Ce sont les opportunités que les jeunes pourront essayer un peu de voir comment est-ce qu'ils peuvent se lancer dans ça. Il y a un problème de chômage des jeunes et ça, nous le reconnaissons tous.
C'est un problème réel. Merci. Brigitte Kiapinga Saoudesque, vous êtes présent dans la salle. Je veux sentir les Calémiens présents dans la salle. Merci. On va passer aux questions des auditeurs. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos invités qui sont présents avec nous ici? On va prendre monsieur, vous présentez et vous posez votre question. Soyez concis et précis.
Merci. Je suis Nathan Mugisho, président du Parlement Debout Sans Tabou, un mouvement citoyen installé au Tanganyika. Je vais poser certaines petites questions. Je commence par le représentant du gouvernement qui a dit, quand vous lui avez posé la question sur le nombre d'entreprises que nous avons, il a estimé ne pas dire qu'il y a des mining qui sont entrés de travailler dans les territoires de Manono et qui nous font beaucoup d'argent, malheureusement, qui est difficilement retrouvable ou observable dans les cas de la caisse de l'État. Aussi, je voudrais aller dans le même sens pour parler du chômage des jeunes. Le gouvernement est en train de vouloir vraiment museler la jeunesse. Aujourd'hui, à Calémie, même pour les petits travaux qui se font dans les différents chantiers, on y retrouve beaucoup d'étrangers qui sont en train de travailler. On se pose la question si ces gens qui viennent d'ailleurs remplissent toutes les conditions afin de mener ces activités sur les sols congolais au détriment des jeunes congolais que nous sommes. On peut parler aussi de l'économie de la province, mais on regarde aussi la souffrance de la population. Aujourd'hui, on peut se poser la question, avec tous ces projets que l'on peut vanter, quel est l'impact? Nous avons quoi comme prix de la farine, des maniocs sur le marché après quelques années de ces projets? Aujourd'hui, nous continuons à importer les riz. Et pourtant, nous avons des projets qui travaillent des années et des années dans les domaines des riz. Nous importons presque tout ce qu'il faut comme à manger ici. Et je dois vous dire que, du point de vue économique de la province, la population est en train de pleurer, de crier, parce que ce sont les autorités et les différents partenaires du gouvernement qui ne facilitent pas à ce que la population puisse bénéficier de la richesse que nous avons au Tanganyika. Merci.
Merci, monsieur Mugisho.
Je suis Bayana Ngoji Socrate, entrepreneur est responsable d'un petit bureautique qui a au moins de 1000 dollars de capital. Mais madame, je vous dis, j'ai été invité deux fois au parquet juste pour une taxe que ni la DGTANG ne maîtrise pas, ni la DGRAD ne maîtrise pas. Je me pose la question de savoir, est-ce que le gouvernement provincial maîtrise très bien les services et qui demande des taxes sur le terrain? Moi qui n'ai pas même 1000 dollars de capital, mais je suis invité là-bas pour une taxe de 130 dollars d'un service qu'on appelle Sokoda. Je n'ai pas une édition, je n'ai pas audiovisuel, mais moi je fais juste le petit imprimerie de documents et on me fait payer ça. Je paye les taxes qu'on appelle par exemple de petits commerçants, la patente, je paye chaque fois, je paye l'impôt. Mais vraiment, je demande si le gouvernement provincial maîtrise très bien les services. Madame a parlé de 10 000 dollars, 50 000 dollars. Mais est-ce que le service de Bicagel passe pour enregistrer les jeunes qui ont déjà créé les entreprises, pour enregistrer, pour savoir qui est dans le domaine de l'agriculture dont elle fait allusion, il finance? Je ne pense pas. Pour terminer, je voulais terminer en disant que nous comprenons que la province a connu des problèmes. Il y a des problèmes de l'Union sacrée, le problème du FCC. Aujourd'hui, nous avons un gouverneur intérimaire, madame. Nous devons le savoir. Et le gouverneur, la politique ne facilite pas toutes choses dans la province. La politique au niveau de Kinshasa aussi doit laisser la province d'évoluer.
Monsieur Jean-Pierre Kibuile Kayabala, chef de bureau protocole Assemblée provinciale. Mais ici, je veux poser la question au Dirkaba du gouverneur, comme habitant de Kalemi. Le Dirkaba nous a dit que le conflit Bantou-Poix était un pesanteur qui empêchait l'économie de la province à booster. Il nous a parlé aussi des coupeurs de route. Ma question est de savoir, parce qu'il nous a dit que ce conflit Toi-Bantou est presque endigué, mais il nous a dit qu'il y avait encore 11 sites de déplacés de guerre. 3 seulement ont été désengorgés et les 9 autres qui restent. Pourquoi ces sites restent encore? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour que ces gens-là rentrent chez eux parce que ce conflit est déjà endigué? Le problème des coupeurs de route, c'est un phénomène qui bat son plein jusqu'aujourd'hui. Il y a plein de motards qui ont perdu leur moto et les autres même leur vie. Qu'est-ce que le gouvernement provincial fait pour endiguer ce phénomène-là, afin que cette histoire ne puisse pas empêcher l'économie de la province à progresser? Parce que aujourd'hui, même les gens, il nous a parlé de l'agriculture. Est-ce que vraiment les gens vont au champ pendant qu'il y a des coupeurs de route sur le chemin? Je ne le crois pas.
Oui, moi c'est Valérien Salé, je suis le représentant de l'organisation Union des jeunes pour le développement. Je commence par le Dirkaba. Quelle est la vision de la province face au développement social et communautaire au Tanganyika? Ça c'est ma première question. La deuxième, quels sont les projets initiés et projetés en caractère socio-économique par le gouvernement provincial au Tanganyika? J'adresse aussi une question à madame concernant le développement de la province. Son projet en fait avait des aspects jeunes qui ont pu quand même former les jeunes, aussi les aspects de l'élaboration des business plans ou l'élaboration des plans d'affaires à Kalemi. Contrairement aux projets financés par les autres organisations qui ont eu de l'argent cash avec l'impact quand même palpable que j'ai. Je ne vais pas entrer en profondeur ici. Quel a été l'appui supplémentaire de ces projets aux jeunes, à part l'élaboration simple, sans coût, au Tanganyika? Et Dédé, quel est le plan de sortie de ces projets face à la saison qui commence ici? Est-ce que ceux qui ont récolté, ils ont déjà débité? À part ça, la redistribution a affecté combien de bénéficiaires à ce niveau ici, pour que nous puissions commencer déjà à se projeter vers l'impact, malgré que le projet est en cours de réalisation?
Monsieur le Dirkaba, vous avez beaucoup de questions. Alors, vous commencez par la dernière ou par la première?
La dernière, je voudrais qu'on me la rappelle. Je ne l'ai pas suivi intégralement.
La vision du gouvernement provincial face au développement social.
La vision de la province, c'est la vision, n'est-ce pas, qu'avait présenté le gouverneur à l'Assemblée provinciale. Et là, il avait, n'est-ce pas, mis l'emphase particulière sur la sécurité, n'est-ce pas, des personnes, de leurs biens. Je pense quand il est venu ici, là, il s'est attaqué, le gouverneur Zoé, il s'était beaucoup attaqué, n'est-ce pas, aux problèmes sécuritaires. Je crois, les résultats sont éloquents. Il y a aussi au niveau de l'agriculture, il y a madame qui vient de donner les éléments, madame Kapinga. Elle dit qu'elle est paysanne, elle voit cela avec cet œil-là, avec ces lunettes-là. Je crois l'agriculture, on venait de le dire, la preuve, on importait tout, surtout les denrées alimentaires. Mais aujourd'hui, on est en train de réduire cet import-là. Ça, c'est un élément de la vision de la province du Tanganyika. Il y a les domaines aussi miniers. Et à un certain moment, je crois que tout le monde est d'accord, et avec le gouverneur Zoé, aussi avec le gouverneur AI, on demande aux jeunes de créer les associations, des coopératives. Ça fait partie de la vision pour donner du travail à la jeunesse. Et il y a autant d'éléments dans beaucoup de domaines. Je voudrais profiter de l'occasion, je vais parler au premier intervenant qui a parlé de mining. Il a parlé de mining. Il a parlé de Manono.
Les petits chantiers aussi, oui. Privilégiés, on donne plus de privilèges aux étrangers au détriment des jeunes.
D'accord, j'en arrive là. Et pour les mining de Manono, mais il y a un problème sérieux. Mais la province n'a jamais profité de ces redevances-là. Soyez certains, parce que moi-même, je suis de Manono. Et tout s'est fait à Lubumbashi. Et le gouvernement a tenté plus d'une fois pour inviter les amis, n'est-ce pas, qui cordonnent les affaires, les mining à Manono, pour venir s'installer ici. Et il y a même un projet des routes de Manono à Kalemi pour pouvoir, n'est-ce pas, charrier tous les produits miniers qui doivent passer et qui doivent sortir par le port ici. Mais il n'y a jamais eu de réponse. Retenons une chose. Il y a des choses qu'on ne sait pas comprendre présentement. Parce que il y a aussi Kinshasa qui est en train de peser d'une façon ou d'une autre. Et vous savez qu'il y a beaucoup de services déconcentrés qui ne dépendent pas jusque-là des Kalemi, du Tanganyika. Et tout s'est fait à Lubumbashi, même certaines directions qui sont ici. Pour avoir des moyens, il faut que Lubumbashi décide. Parfois, tout est raflé par Lubumbashi. Donc ça, ce sont des éléments qui prouvent qu'il y a encore à faire. Comme on l'a dit, la province étant jeune, comme Madame l'a souligné, on ne sait pas trouver des solutions à tous les problèmes.
Mais et le problème des taxes, comme l'a soulevé tout à l'heure, jeune entrepreneur...
Oui, ça c'est un problème. C'est un problème réel. Le problème des taxes, c'est un problème réel. Le gouvernement est en train de se casser à quatre. Dernièrement, vous avez suivi, les gens des Kalemi ont suivi les motocyclistes, n'est-ce pas, et qui voulaient faire la grève à cause des taxes. Parce qu'à un certain moment, avec le gouvernement, on a dit non, il faut laisser. Parce que ces gens n'ont pas de moyens. On ne peut pas, n'est-ce pas, demander des taxes aussi longtemps que le gouvernement n'a pas encore entretenu autant de kilomètres et de routes. Ça viendra.
Alors vous dites qu'on ne peut pas demander des taxes, mais sur terrain, on perçoit ces taxes-là.
Oui, c'est ça le grand problème, je crois, le jeune qui vient d'intervenir ici. Il dit qu'il a été convoqué au parquet. Et là, il faut aussi informer l'autorité provinciale qui est en train de se battre pour supprimer, n'est-ce pas, certaines taxes. Et même au niveau du port, pour des raisons des taxes, là, il y a deux commissions qui ont été créées. Il y a la commission sécuritaire. On avait retiré des militaires du port. C'est déjà une réponse. C'est vrai, on n'arrive pas à trouver les réponses à toutes les questions. Il y a même une commission administrative.
Comment ça, vous n'arrivez pas à trouver des réponses aux questions, monsieur le Dirkaba?
Oui.
C'est quand même le gouvernement provincial.
On ne peut pas trouver les réponses à toutes les questions. On y va progressivement.
Alors, il y a une autre question sur les coupeurs des routes. Qu'est-ce que vous faites pour mettre fin à ce phénomène?
C'est un phénomène qui a existé, qui avait de l'ampleur. Mais aujourd'hui, c'est vrai, il y a des choses qui sont en train de refaire surface. Mais de toutes les façons, l'autorité est en train de travailler. Elle travaille là-dessus. Et alors, mais on a réduit quand même la fréquence de ces coupeurs de route. Et aussi, nous devons souligner un aspect. Vous savez que les effectifs des hommes en uniforme, des militaires, sont très réduits. Ça aussi, c'est un problème. Parce qu'on ne sait pas encadrer ou quadriller tous les carrés où il y a les coupeurs de route. C'est un phénomène qui est en train d'être réduit d'une façon ou d'une autre.
Oui. Merci, monsieur le Dirkaba. Madame Kapinga, coupeurs de route, agriculture, vous pensez qu'avec ce phénomène, les gens auront le courage d'aller au champ? Puisque vous prenez l'agriculture, vous encouragez les gens à se lancer dans l'agriculture. Avec ce phénomène, vous pensez que c'est facile pour les Tanganyikais, Tanganyikaises d'aller au champ?
Non, merci beaucoup pour la question. Moi, je pense que c'est un goulot d'étranglement. Le phénomène coupeur de route, c'est vraiment un goulot d'étranglement parce que ça nous empêche à nous tous de bien travailler. Je vais prendre un exemple simple par rapport à mon institution. Nous devrions faire une route de 60 km sur la route qui mène vers le barrage de Bendera. Mais avec le phénomène coupeur de route, on a dû annuler les 60 km de route des dessertes agricoles. Et donc moi je me dis que c'est vraiment un problème très sérieux. Et pour le moment, nous avons des difficultés pour nous déployer sur le terrain au-delà de 40 km parce que la sécurité n'y est pas avec l'histoire des coupeurs des routes. Et je pense que c'est une responsabilité du gouvernement provincial ainsi que du gouvernement central parce que je suppose que le gouvernement central devra appuyer le gouvernement provincial quant à ça. Parce que comme je venais de le dire, c'est vraiment un goulot d'étranglement. Ça empêche tout le monde de faire son travail.
Est-ce que votre projet a déjà eu un impact sur l'économie de la province?
Je voulais en revenir. Donc c'est la question du premier intervenant. Ce que je dirais d'abord, nous sommes dans un projet de développement. Et dans un projet de développement, on ne peut mesurer l'impact que 5 ans après. Je souligne bien 5 ans après la fin du projet. C'est alors que nous pouvons mesurer l'impact du projet. Il pouvait plutôt poser la question sur le résultat du projet, parce que entre résultat et impact, c'est deux mondes différents. Et par rapport au résultat du projet, je pense qu'il y en a beaucoup. Je crois que l'autorité qui représente le gouverneur, c'est son directeur de cabinet, il a reconnu devant tout le monde qu'il y a de cela quelques années. Moi, je ne dirais même pas 5 ans, il y a de cela seulement 2 ans. On importait pratiquement tout dans les Tanganyika. Mais depuis l'avènement du projet, aujourd'hui, la tendance est renversée. Parce que quand on vous demande, par exemple, le foufou qui est sur le marché, qui a quitté les champs, qu'on a déjà moulu, est-ce que c'est possible? Et là, je m'adresse aux spectateurs qui sont avec nous dans la salle, est-ce que ce foufou-là qui a déjà été moulu, est-ce que c'est possible d'y mettre un nom et de savoir que le foufou que vous mangez vient de tel projet? Est-ce que c'est possible? Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les gens, ils disent que non, on ne voit pas l'impact du projet. J'ai été invitée comme experte en développement et non comme Picagel. Ce qui fait que je parlerai moins de mon projet. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Il y a seulement au mois de janvier. Madame, nous sommes dans le secteur de l'agriculture de manioc. Je parlais d'abord de l'agriculture de manioc où la culture fait au moins une année dans le champ. Nous avons commencé les activités proprement dit en 2020. C'est que le résultat, c'est en 2021. Je parle de résultats, moi je ne parle pas d'impact, parce que l'impact, ça n'a rien à voir avec nous. Et donc, pour qu'on sente, pour qu'on voie ces maniocs, il faut attendre une année. Et je vous dis, et je mets quiconque au défi, au mois de janvier 2021, un sac de manioc coûtait 100 000 francs dans la province du Tanganyika. Aujourd'hui, ce sac de manioc est à 50 000 francs congolais.
Vous laissez pas, d'accord? Alors, il y a ceux...
Je pense que nous sommes en démocratie.
Je pense que
nous sommes en démocratie et c'est impossible que tout le monde soit d'accord. Même Jésus qui avait multiplié le pain et le poisson, Jésus qui avait guéri les malades, tout le monde n'était pas d'accord avec lui. Donc pour ce qui concerne le projet, c'est tout à fait normal qu'il y ait des opposants.
Alors, madame...
Et même j'irai plus loin.
Madame Capina, il faut vous résumer, hein, parce qu'on doit tenir compte du temps.
Voilà. En fait, ce sont les questions, vous m'avez posé des questions.
Il y a un auditeur qui a posé la question sur les jeunes.
Voilà.
Comment ils seront qu'il y a des financements, par exemple, pour l'agriculture?
Il y a M. Socrate qui a posé la question de savoir si on allait vers le jeune pour les enregistrer. Moi, je crois que nous pouvons être considérés comme un hôpital. Et à l'hôpital, c'est les malades qui vont chercher le médecin. Et donc, nous demandons aux jeunes de venir vers nous.
Merci, Madame Kapinga.
Et je crois qu'il y a une dernière question qui est assez importante. C'est la question de plan d'affaires. Notre jeune nous a posé la question. On a aidé le jeune à préparer le plan d'affaires. Qui n'a pas de budget, ce qui n'est pas vrai. On ne peut pas parler d'un plan d'affaires s'il n'y a pas de budget. Et ce que je vais vous annoncer, et ça, j'en profite, comme on dit, l'occasion faisant les larrons. Je profite de ces tribunes aujourd'hui pour annoncer aux jeunes que quand on a aidé les jeunes à faire le plan d'affaires, on devait les référer dans le banque pour aller chercher des crédits. Mais avec notre plaidoyer personnel, il y a seulement 2 un jour, parce que la banque était ici à Calémé, la Banque mondiale qui est notre bailleur, la banque nous a accordé 8 millions pour ne pas donner aux banques pour le crédit, mais plutôt pour continuer à vous financer avec des sous-projets.
C'est une bonne nouvelle pour la jeunesse, applaudissons au moins pour ça. S'il vous plaît. Merci, Madame Kapinga. Monsieur César Kouloumboa, je rappelle que vous êtes chef des services de la FEC Tanganyika. Comment rendre l'économie florissante, l'économie du Tanganyika, mais aussi un mot sur le phénomène coupeur des routes. Ça ne vous facilite pas non plus, vous, la tâche, hein, vous, opérateur économique.
Merci beaucoup. Concernant, je vais répondre d'abord pour la deuxième question. Concernant le coupeur de route, ce phénomène a un impact vraiment important à notre économie, je dirais, parce que nos clients, ceux qui viennent acheter dans nos dépôts, ce sont ceux qui viennent de différents villages qui sont autour de Calémi. Vous imaginez, et une fois s'il y a le coupeur de route, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de clients pour venir nous acheter dans nos magasins. Et une fois si vous passez, voire même ici en ville, dans nos dépôts, c'est rempli de sacs de sel. Il n'y a pas de clients. Ils sont tous bloqués là-bas avec le phénomène coupeur de route. Ils ne savent pas comment arriver ici au centre-ville pour acheter nos marchandises.
Par rapport aux défis, qu'est-ce qu'il faut pour relever le niveau de l'économie?
Pour relever le niveau de l'économie, il faut aider l'opérateur économique. Et une fois s'il y a un cri de larmes, que les autorités puissent écouter ça attentivement et répondre, donner solution à ces problèmes. Et par là, nous allons développer et aller de l'avant avec notre économie au niveau du Tanganyika.
Merci César Kouloumboa.
Merci beaucoup.
Le temps nous fait défaut. On va prendre juste deux questions. Je suis vraiment désolée, chers auditeurs. On va prendre trois personnes. Prends trois personnes.
Merci beaucoup.
Essayez d'être concis, hein, s'il vous plaît. Merci.
Je réponds au nom de Luther Bisongo. Je suis conseiller du gouverneur. En fait, j'interviens ici non pas pour poser une question, mais plutôt pour donner un apport à ce qui a été dit déjà par le directeur et par Madame Kapinga.
On vous écoute.
Si nous devons partir de la question, le paradoxe tanganyika, beaucoup de potentialités, mais une situation socio-économique lamentable. Il y a des pesanteurs qui ont été déjà soulevés ici, énoncés, mais moi j'aimerais insister sur trois choses essentielles. Premièrement, c'est l'essence de l'économie congolaise. Je dis bien l'économie congolaise et non tanganyikaise. Notre économie est par essence une économie de marché. Et donc, nous devons compter sur l'investissement privé pour impulser le progrès et donner de l'emploi. Mais l'attractivité du Tanganyika en tant qu'entité, il y a un facteur essentiel qui nous manque, c'est l'énergie. Le gap énergétique tanganyika est tellement grand que la province n'est pas très attractive sur le plan de l'industrialisation. Et vous allez vous poser certainement la question de savoir, mais le gouvernement provincial, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, par le passé, avec le gouverneur Zoé, on a pu comprendre, parce que tous les investisseurs qui venaient nous posaient la question de savoir, mais chez vous, vous avez quelle capacité à alimenter les industries en termes d'énergie? Presque nul. Parce que le peu de mégawatts que nous avons, nous n'arrivons même pas à satisfaire les besoins actuels, qui sont presque tous des besoins domestiques. Donc nous avons besoin de beaucoup d'énergie pour rendre attractive la province et faire en sorte que des investisseurs sérieux s'amènent ici, des privés. Et le rôle de l'État, c'est de créer le cadre pour rendre attractif l'entité. Et c'est ce que la province fait. Il y a des plaidoyers qui sont faits au niveau national dans ce sens-là, raison pour laquelle aujourd'hui vous apprenez qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau de la centrale de Bendera, si bien que dans les jours à venir, dans les mois à venir, il y a un grand travail qui va commencer là-bas pour essayer de relever un tout petit peu la capacité énergétique de la province, passer de 8 mégawatts, je crois, si je ne m'abuse, à tout au plus 17 mégawatts. Ça, c'est important. Donc nous ne devons pas considérer que c'est la province qui va créer des emplois. Parce que je l'entends souvent dans les milieux des jeunes, ils attendent que la province crée de l'emploi. Les seuls emplois que la province peut créer, c'est la fonction publique provinciale. Et il y a un travail de fond qui doit être fait là-dessus.
Merci, monsieur le conseiller. Une question, hein, chacun vous posez une question. Allez-y rapidement, monsieur.
Merci, je réponds au nom de Ghislain Mougalou. Je suis chef de travail à l'Université de Calémie. Je m'adresse à madame Brigitte Kapinga. C'est vrai que vous me demandez d'aller tout droit à la question. Je dois l'informer que avant qu'elle ne vienne avec Pigagel, il y avait un programme qu'on appelle ProDAP. Et il faudrait qu'elle puisse un peu passer sur les tiroirs, se renseigner, parce que c'est un programme qui a été financé par la BAD, qui est l'air Bayer aussi. Il aura les résultats ou l'impact de ces projets-là. Vous reviendrez peut-être dans un autre cadre. Nous allons en discuter. Je vous informe aussi, dans le territoire de Nyunzu, il y avait un autre projet, du temps de Nord Chaba. Ce projet a été exécuté à la machette. Et dans la salle, je pense qu'il y a des gens qui ont eu les résultats de ce projet-là. Madame, vous dites qu'il y a de cela 3 ans, que vous avez constaté qu'il y a un flux de bateaux. Mais je vous informe que pendant 3 ans, on n'a monté aucun bateau ici à Calémie, sauf le fameux bateau Amani qui a été monté pendant les 2 ans ici. Et donc, au niveau des bateaux, rien n'a été fait. Moi, je vais tout droit au but. Si vous, en tant que Congolaise, paysanne comme vous avez dit, si il vous est demandé, en tant que Congolaise, de vous coter, de coter votre programme, au niveau social, parce que vous dites l'impact, c'est après 5 ans. Mais je sais que les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous savons ce qui va nous attendre après. Si il vous est demandé, vous, madame Kapinga, vous parlez très bien, avec un bon français, si vous est demandé d'évaluer votre projet, et je vous informe en plus que le manioc que vous cultivez n'est pas consommé à Calémie. Si vous est demandé, nous consommons les maïs. La salle est témoin. C'est ce que nous consommons. Le manioc n'est pas consommé. Il peut quitter à 10 000, mais personne ne consomme. Si vous êtes demandé d'évaluer votre projet, quelle cote donneriez-vous? Merci.
Merci beaucoup. J'espère que vous avez noté la question. Allez-y, monsieur, une question.
Oui.
Vous vous présentez, vous posez la
question. C'est Augustin Moulala, président honoraire du Parlement des jeunes de Momba. Bon, c'est vraiment la question. Il faut que je motive un tout petit peu. Vous avez parlé des avancées au sein de la province, madame, entretenant même les directeurs des cabinets. Des avancées, oui, mais vous devez nous dire très bien, parce que ces avancées doivent être évaluées à travers les paniers de la ménagère. Vous devez nous dire cela en termes de seuil de pauvreté. Est-ce que vous pensez vraiment que le seuil de pauvreté au sein du Tanganyika augmente ou diminue? Vous devez préciser cela à travers l'IDH, l'indice du développement humain, à travers aussi l'indice de pauvreté multidimensionnel, j'ai dit.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Moi, c'est Ali Yumbiala. Je suis expert en gestion de projet et puis en gouvernance et management de marché public pour le développement durable. J'avais 3 questions, malheureusement. Il est dit qu'on n'a droit qu'à une seule question.
On a une question.
OK. D'accord, je voulais poser au Dirkaba, Madame Brigitte, mais je pose quand même ma question au représentant de l'AFEC. En fait, en début de votre intervention, vous avez dit que trop d'impôts tuent l'impôt. On retient cela. Entre-temps, la province connaît des problèmes, entre autres l'insécurité, les infrastructures. Comment pensez-vous, sur la base de la fonction sociale de l'impôt, qui consiste à réduire les inégalités sociales, à financer les interventions de l'État et à protéger les membres les plus démunis, comment pensez-vous que l'administration publique peut intervenir dans ce secteur-là sans le paiement d'impôts? Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Mathieu Mbouy. Je suis avocat au barreau du Tanganyika. En fait, j'avais pas une question. J'avais faire un constat de fait. On parle du développement du Tanganyika. Tout le monde ne le sait pas, peut-être. Le développement existe des conditions que seul l'engagement de tout le monde peut rendre possible. C'est-à-dire, en matière de développement, il n'y a pas de groupe. D'un côté, un groupe qui a l'obligation d'amener le développement et de l'autre côté, un groupe qui va en bénéficier. Je voulais appeler ici la jeunesse à la prise de conscience. Un sage a dit que quelqu'un peut être affecté dans son corps, et ça c'est grave. Il ajoute, il dit, mais si quelqu'un est affecté dans sa capacité elle-même d'initiative, ça c'est pire. Je pense que le développement du Tanganyika demande beaucoup plus l'implication des jeunes dans les initiatives créatives d'emploi plutôt que des associations à des fins politiques. Merci.
Alors, vous allez aussi être concis dans vos réponses. Monsieur César Koulomboa, comment pensez-vous que la province pourrait se développer sans la perception des taxes et impôts?
Merci beaucoup pour la question. La province peut se développer s'il y a la modération. Quand même, on paye une taxe normalement, pas avec des surplus. Prenons l'exemple. Si une taxe est fixée, selon la nomenclature, à 50 dollars, mais on arrive à ajouter d'autres chiffres là-dessus. Vous imaginez? Au lieu de payer 100 000 francs, ça devient 150 000, là où l'opérateur ne sera pas en taille de payer facilement. c'est une chance pour lui. Si on paye aisément, et le développement va se
suivre. Madame Brigitte, soyez concise dans vos réponses.
Merci beaucoup, merci, merci à tous les intervenants. Il y a M. Justin Mougalou qui nous a ramené, je crois que c'est la première question que j'ai eue. M. Justin Mougalou, il nous a ramené au projet ProDAP. Je vous en remercie, mais on dit toujours que comparaison n'est pas raison. PKGL n'est pas ProDAP. Chaque projet a ses objectifs, ses quintessences, et j'ajouterai ses animateurs. Et nous pouvons vous dire une chose, nous avons l'obligation des résultats et nous travaillons pour le résultat. Il a encore posé la question si nous devrions nous coter nous-mêmes, quelle cote nous allions nous donner. Avant que nous n'arrivions à nous coter, nous devons vous dire une chose, nous sommes cotés à trois niveaux. Premier niveau, c'est le gouvernement congolais, les propriétaires du projet. Deuxième niveau, c'est la Banque mondiale qui est le bailleur du projet. Et le 2 sont les concepteurs du projet et ils connaissent quels sont les éléments qui sont dans le projet. Troisième niveau, c'est au niveau de bénéficiaires. Si ces trois niveaux, ils pensent que les projets répondent aux objectifs qui lui ont été assignés, qui suis-je moi pour ne pas m'écouter très bien?
Alors,
et donc, ce que je veux dire, c'est que pour nous, et pour les bailleurs, peut-être, si vous permettez, madame, ça c'est un petit secret que je vous dis, pour les bailleurs, le PKGL fait partie, pour la Banque mondiale, et ça, c'est une information qui date de 3 jours, pour la Banque mondiale, depuis qu'il finance les projets, il n'y a pas un projet qu'il a financé qui soit comme le PKGL Tanganyika.
Alors, merci madame, on va passer à la deuxième question. Merci, cher public, auditoire Radio Capi. Alors, la deuxième question, c'est les résultats. Vous parlez des avancées au niveau de la province, mais ça ne se ressent pas dans le panier de la ménagère, comme l'a dit l'auditeur tout à l'heure.
Oui, je crois que cette question, elle est vraiment pertinente, qu'on ne ressent rien dans les paniers de la ménagère, mais moi, je pense que l'honnêteté voudrait qu'on reconnaisse. Pourquoi je dis ça? Vous savez, nous sommes dans le secteur de projet. Et quand on parle d'un projet, nous sommes comme si vous alliez à l'hôpital général. À l'hôpital général, vous allez trouver des médecins généralistes, vous allez trouver des médecins spécialistes. Tu ne vas pas demander à un oculiste pourquoi il t'a soigné, mais tes oreilles continuent à faire mal. Au moment où tes yeux commencent à voir, le projet ici ne travaille pas dans le maïs. Le projet, quand le projet a été négocié entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale, ils ont décidé 3 spéculations. Le riz, le manioc et l'élevage laitier. On n'a jamais parlé du maïs. Nous sommes venus pour travailler dans ces 3 éléments. Donc, considérez-nous comme oculistes, ne nous posez pas les questions des problèmes des oreilles.
Merci, merci Madame Kapinga. Monsieur le directeur des cabinets adjoints du gouverneur en charge des questions politiques et sociales, Jean-Pierre Kizanza, quels sont les défis à relever pour rendre l'économie de la province florissante?
Ok, merci. Je suis en train de vous dire que pour le moment, nous avons un ennemi, un grand ennemi.
S'il vous plaît, merci. On vous écoute, monsieur le directeur.
Je disais que nous avons un grand ennemi, c'est la pauvreté, c'est-à-dire nous devons beaucoup travailler à tout point de vue, au niveau sécuritaire. Et on ne doit pas négliger cet aspect parce que ça peut encore rebondir. Là, c'est un grand défi. Je l'ai dit au départ, pas de sécurité, pas de développement socio-économique. Et il y a l'aspect porteur qui est le secteur agricole. Parce que ici, chez nous, au Tanganyika, nous avons au moins 3 ou 4 territoires qui sont les greniers, n'est-ce pas, de la province, même de la République. Là, franchement, on doit travailler pour équiper. Donner la farine aux gens sans dire rien, mais alors il faut équiper, il faut donner les outils aratoires aux paysans pour qu'ils produisent beaucoup. Mais faudrait-il que la route soit, n'est-ce pas, exploitable? À News, on produit beaucoup. À Moba, on produit beaucoup. D'ailleurs, en passant, je voudrais vous signaler que Moba est en train de faire des exploits. Moba est en train de faire sortir des quantités de maïs pour le sud Kivu et ailleurs. Parce que là, il y a le problème de sécurité, c'est presque résolu. Là, c'est un élément très important. Moi, j'insiste toujours. On peut tout faire, mais si l'aspect sécuritaire, et on n'a pas encore des solutions là-dessus, nous avons des problèmes. Merci.
Merci beaucoup, monsieur le Dirkaba. On va considérer cela comme votre conclusion. Madame Kiapinga, vous avez aussi 30 secondes pour conclure. Vous pensez qu'il y a de l'espoir pour la province sur le plan économique et le social?
En tout cas, moi, je suis de ces gens qui sont toujours optimistes. Je n'ai jamais été pessimiste dans la vie. Et si nous avons quitté très loin pour venir travailler dans la province du Tanganyika, c'est parce que nous avons cru en cette province. Nous croyons qu'il y a des potentialités. Nous croyons qu'il y a de l'avenir dans cette province. Et je demande à tous les jeunes qui nous entendent aujourd'hui, je demande à tous ceux qui peuvent nous suivre de partout où ils peuvent être, de croire en cette province. N'en déplaise à ceux qui pensent et ceux qui voient toujours tout au noir, moi, j'ai de l'espoir que le Tanganyika pourra
Brigitte
évoluer.
Merci Brigitte Kiapinga, experte en développement, César Kulumbwa, chef de service de la FEC Tanganyika. On va te mot de la fin.
En tout cas, je suis très content d'être sélectionné, je dirais, dans cette émission. Nous demanderons juste d'aider les opérateurs économiques de Tanganyika d'aller de l'avant et aussi écouter leur plaidoirie. Une fois s'il y a un problème auprès d'un opérateur économique, que les autorités puissent quand même écouter ces cris de l'art. Merci.
Merci beaucoup à César Kulumbwa. Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci d'être venus très nombreux pour participer à cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.